Un proverbe dit « Tout vient à temps à qui peut attendre ». Mais qui aime attendre? Pas moi en tout cas. Quand j'étais enfant et que le froid hivernal s'était installé, j'avais hâte que Noël arrive afin de recevoir tous les cadeaux que je voyais en rêve. À cette époque de ma vie, chaque semaine était interminable et je demandais souvent « Quand c'est Noël ?» Ceux qui attendent qu'un événement précis se réalise trouvent toujours que le temps se traîne. C'était exactement la situation des premiers croyants qui étaient dans une grande expectative car ils espéraient le retour de Jésus d'un moment à l'autre. Mais après plusieurs décennies d'attente infructueuse et l'usure du temps aidant, les fidèles du Seigneur commençaient à se demander s'il allait vraiment revenir. L'espérance du retour du Christ était de première importance pour l'Église primitive. Cette attente était si réelle et intense que les chrétiens du premier siècle se saluaient en disant « Maranatha », ce qui en araméen signifie « Seigneur, viens ». Les croyants s'accrochaient à cette espérance car elle était le point d'orgue de tout ce que leur foi représentait pour eux. Il n'est donc pas étonnant qu'à l'exception de deux lettres minuscules, tout le Nouveau Testament reflète cette anticipation en faisant allusion d'une manière ou d'une autre au retour du Seigneur. En fait, dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, les auteurs évoquent environ 300 fois la seconde venue du Christ. Lorsque les croyants vivent dans l'espérance du retour de Jésus, ils sont zélés et enthousiastes pour lui et marchent droit. Comme l'apôtre Jean le dit si bien, cette espérance a une action purificatrice. Cependant, lorsque les croyants négligent la seconde venue de Jésus, ils se laissent aller et absorber par ce qui est temporel et s'attachent aux valeurs de ce monde, ce qui fait qu'ils deviennent apathiques vis-à-vis de la parole de Dieu et des réalités éternelles. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre demande à ses lecteurs d'être patients jusqu'à la venue du Seigneur. Je continue à lire dans le chapitre 3 de la seconde épître de Pierre. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 8. Les imposteurs religieux qui avaient commencé à s'introduire dans les églises avaient beau jeu de dire aux paroissiens moyens « Voilà des lustres que vous attendez le retour du Seigneur et il ne s'est rien passé. Soyez donc raisonnables et renoncez à cette idée farfelue d'une soi-disant réapparition de Jésus. » C'est à cause de ce genre de mensonges que Pierre fait appel à la mémoire de ses lecteurs en leur disant « Il y a un fait que vous ne devez pas oublier. » Puis il leur explique que Dieu ne calcule pas le temps comme les hommes. Dans un psaume, Moïse écrit « Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. » Pierre encourage donc les croyants à tenir compte de la perspective de Dieu, car pour lui, et au regard de l'éternité d'où il siège, un clin d'œil, une année ou un siècle, c'est quasiment la même chose, et un jour ou un millénaire est une quantité tout aussi négligeable l'une que l'autre. Les êtres humains comparent le temps au temps, mais Dieu le compare à l'éternité. L'histoire de l'Église, qui est d'environ 2000 ans, est aux yeux du Seigneur comme 2 jours ou même 2 minutes. Dans l'éternité, le temps n'existe pas. C'est un peu difficile à concevoir pour nous qui sommes tellement dépendants du temps qui passe. Mais quand on y réfléchit, que vous retiriez de l'océan une cuillère à café d'eau de mer ou 1000 tonnes pour éteindre un incendie, ça ne fait aucune différence pour l'océan. Dans le contexte de ce passage, Pierre enseigne que même si pour nous le retour de Jésus semble éloigné, il est imminent du point de vue de Dieu. Comme j'aime à le rappeler de temps en temps, les êtres humains sont comparables aux poissons qui nagent dans un aquarium. Ils sont enfermés dans un bocal, le bocal espace-temps, et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, en quelque sorte, parce que leur intelligence et leur esprit sont très limités. En conséquence, il ne faut pas essayer de tirer le Créateur vers le bas en l'amenant au niveau de la créature, car le Dieu infini n'appartient pas à notre cadre temporel minuscule. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra bel et bien, mais seulement au moment précis que l'Éternel a déterminé d'avance de toute éternité. Les mauvais coucheurs qui demandent à ce que Dieu se conforme à leur façon de voir le monde se comportent comme des animistes ou des idolâtres, car au fond, pour eux, le Seigneur de l'univers n'a rien de plus que l'un de ces nombreux esprits censés hanter la forêt, ou que l'une de ces nombreuses divinités qui habitent la mythologie grecque et qui sont animées par les mêmes passions que les êtres humains. Ils veulent ignorer que le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Tous ceux qui prétendent que Christ ne reviendra pas parce qu'il ne l'a pas encore fait sont des arrogants insensés. Je continue le texte de Pierre. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Verset 9. Le retour du Seigneur semble long à se réaliser parce que Dieu mesure le temps d'une toute autre manière que nous et deuxièmement, parce qu'il désire que le plus grand nombre possible de personnes soient sauvées pour l'éternité. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Le mot pour retard veut dire hésiter, traîner et n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Une fois encore, Pierre compare la perspective des hommes moqueurs à celle de l'Éternel. La soi-disant lenteur du Seigneur à réaliser ses promesses n'est en fait qu'un retard par rapport au calendrier des imposteurs religieux et non pas par rapport au calendrier de Dieu. Le Seigneur n'est pas indifférent aux injustices de ce monde, mais il les supporte à cause de ceux qui sont prédestinés au salut. Il attend donc que ces derniers se tournent vers Jésus et soient sauvés. Soit dit en passant que c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus qui permet à un être humain de recevoir la vie éternelle en son nom. Dans sa première épître, Pierre écrit à ses lecteurs « Vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Nul ne peut prédire la date du retour du Christ, mais d'après l'apôtre Pierre, Dieu fait simplement preuve de patience. Le terme que Pierre utilise pour décrire la patience de Dieu signifie une attitude inébranlable qui ne cède pas. En d'autres mots, Jésus reviendra uniquement quand la patience de Dieu sera arrivée à son terme. Or, comme c'est l'un de ses principaux attributs, l'attente peut encore durer longtemps. Pierre dit aussi que Dieu ne veut pas qu'un seul périsse. Cette mort est une référence au jugement éternel loin de la face du Seigneur que subiront tous ceux qui meurent dans leur péché parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur. Selon les Écritures, Dieu ne veut pas la mort des hommes. Un prophète écrit « Vraiment, moi, je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Convertissez-vous donc et vivez. » Dieu n'est ni indifférent, ni impuissant, ni distrait, bien au contraire. comme il est miséricordieux et patient, il retarde son jugement afin que des pécheurs puissent venir à Jésus. S'il ne revient pas dans l'immédiat, c'est parce que Dieu attend que tous les pécheurs qu'il a choisis placent leur foi dans le sacrifice du Christ pour l'expiation de leurs fautes. Le retour de Jésus n'aura pas lieu avant que chaque personne prédestinée au salut soit sauvée. Cette longue attente est donc due à la grâce divine qui se manifeste dans sa patience à cause de l'amour qu'il porte aux hommes. En effet, Dieu aime ses créatures malgré leur cœur rebelle et leur méchanceté. Rien n'est plus fort que l'amour. Le roi Salomon écrit « L'amour est fort comme la mort. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. » Fin de citation. Je peux rejeter Jésus, lui cracher au visage comme l'ont fait les soldats romains avant de le crucifier, mais ce comportement infâme n'a pas altéré l'amour que Dieu portait personnellement à chacune de ces brutes épaisses. Je ne peux pas plus empêcher Dieu de m'aimer que d'arrêter la pluie. Par contre, j'ai toujours la possibilité de déployer un parapluie pour ne pas me faire mouiller. Pareillement, tout être humain peut tenir Dieu et Jésus-Christ à l'écart de sa vie en utilisant le parapluie de l'indifférence, de la religion ou de la rébellion ouverte, afin de se préserver de l'amour divin. J'ai lu une histoire tirée de la mythologie qui illustre l'immortalité de l'amour. Un jeune homme tomba éperdument amoureux d'une très belle femme qui était méchante comme un pou. Elle ne pouvait pas supporter la présence de la mère de son prétendant à cause du caractère noble de celle-ci. Le jeune homme demanda à ce monstre de femme de l'épouser. Elle accepta à condition qu'il découpe le cœur de sa mère et le lui apporte. Il était tellement fou amoureux qu'il commit cet acte barbare. Alors qu'il se rendait chez cette horrible femme, avec le cœur de sa mère sur un plateau, il trébucha et heurta violemment le sol. Alors, une voix sortit du cœur et demanda « Mon fils, t'es-tu fait mal ?» Malheureusement, nous pouvons agir d'une manière tout aussi ignoble que ce jeune homme vis-à-vis de Dieu, parce qu'il nous a créés libres de l'accepter ou de le rejeter. Dieu aime le plus vil des êtres humains, celui qui blasphème et le maudit, et il attendra patiemment pendant un temps qu'il a fixé d'avance qu'il change d'opinion et d'attitude à son égard parce qu'il veut le sauver de lui-même. Dieu a prouvé son amour envers moi quand Jésus est mort à ma place, prenant ainsi sur lui le châtiment que je mérite. L'apôtre Jean écrit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Mais attention! À mesure que les minutes s'égrènent, la patience de Dieu s'écoule comme les grains de sable d'un sablier, et un jour, il sera vide. Quand tous les élus auront placé leur foi en Jésus-Christ, la patience de Dieu sera épuisée. Après avoir accordé à l'humanité, à vous et à moi, tout le temps qu'il a souverainement déterminé, l'Éternel déchaînera sa colère contre ce monde. Pour l'instant, sa patience diffère encore son jugement, mais la période de grâce, dont l'humanité jouit encore, aussi longue soit-elle, ne durera pas indéfiniment. Elle arrivera à son terme. Alors viendra la tribulation, la première phase du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Ensuite aura lieu la seconde venue du Christ, qui établira son royaume de justice sur cette terre. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Quand l'heure de son glorieux retour sonnera, Dieu aura accompli sa parfaite volonté au moment exact qu'il avait choisi de toute éternité. C'est déjà ce qui s'était produit lors de la première venue de Jésus. L'apôtre Paul écrit « Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. » Dieu suit un calendrier précis qu'il s'est fixé depuis toujours de sa propre volonté. Il n'est jamais ni en avance ni en retard. Je continue le texte de l'épître de Pierre. « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera mise à nu et jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. » Verset 10. Peu importe ce que peuvent raconter les imposteurs religieux que Pierre appelle des moqueurs, le Seigneur viendra, ça c'est sûr, et sa venue sera à la fois surprenante et catastrophique. L'expression « le jour du Seigneur viendra comme un voleur » a été utilisée par l'apôtre Paul et l'analogie du voleur par Jésus. Pierre veut dire que l'effet de surprise de ce jour grand et terrible sera total. Il surviendra de manière tout à fait inattendue et sera dévastateur. Dans les Écritures, le jour du Seigneur désigne deux catégories de jugements. D'une part, les interventions extraordinaires et miraculeuses de l'Éternel dans l'histoire de l'humanité, qui étaient des châtiments ponctuels, et deuxièmement, l'anéantissement du monde tel que nous le connaissons. Cette destruction débutera avec les 7 ans que durera la tribulation, et sera plus particulièrement intense pendant la deuxième moitié de celle-ci. Ce sera un temps de ténèbres et de châtiments sans pareil, une période pendant laquelle le Seigneur révélera sa gloire en détruisant ses ennemis et en lavant la sainteté bafouée de son nom dans un immense bain de sang. Puis Jésus-Christ établira son royaume millénaire. L'expression « le jour du Seigneur » apparaît au moins 19 fois dans l'Ancien Testament et 4 dans le Nouveau. Les prophètes utilisaient cette expression pour décrire à la fois des jugements rapprochés et la tribulation de 7 ans de la fin des temps. Dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur est appelé 6 fois « jour de la détresse » et 4 fois « jour du châtiment ». Les auteurs du Nouveau Testament le nomment le jour de la colère et le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les auteurs du Nouveau Testament considéraient le jour du Seigneur comme une suite d'événements futurs redoutables et terrifiants. Le jugement final de l'humanité se déroulera en 2 temps séparés en gros par 1000 ans. Il aura lieu premièrement pendant la tribulation décrite en détail dans le livre de l'Apocalypse et c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ qui le déclenchera. Le second jugement aura lieu à la fin du millénium quand Dieu écrasera la dernière révolte des hommes impies contre lui. Ensuite viendra enfin la fin des fins, la fin de l'histoire humaine, quand Dieu détruira entièrement cet univers en le faisant disparaître, puis établira les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui sera habitée par une nouvelle humanité. Au point culminant du jour du Seigneur, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Le ciel fait référence à l'univers physique visible de l'espace interstellaire et intergalactique. Le mot pour fracas évoque une explosion assourdissante ainsi que les crépitements et les sifflements produits par les objets consumés par le feu. Pierre décrit ici la destruction pure et simple de notre univers. Jésus y a fait référence de manière anecdotique dans son discours sur la montagne des Oliviers quand il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais ». Il voulait dire par là que ses paroles étaient plus durables et plus solides que l'univers. Tout comme Jésus, Pierre annonce la dissolution de l'univers qui se désagrégera et disparaîtra avant d'être remplacé par de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la structure atomique de la matière fait d'elle une bombe nucléaire potentielle. Cependant, les détails de ce scénario catastrophe, la façon dont Dieu dénouera l'univers, ne nous sont pas donnés. Pierre parle des chamboulements qui auront lieu dans l'univers pendant le jour du Seigneur, ce qui inclut d'une part la période de 7 ans qui s'appelle la tribulation et qui précédera le millénium, et d'autre part la destruction de l'univers qui aura lieu après le millénium. Dans la phrase « Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera mise à nu et jugée avec tout ce qui a été fait sur elle », le mot pour « éléments » signifie littéralement « ceux qui forment une rangée », comme c'est le cas pour les lettres de l'alphabet ou une suite de nombres. Dans le contexte de la fin de l'univers, les éléments désignent les astres, c'est-à-dire l'infiniment grand, et les atomes constitutifs de la matière, c'est-à-dire l'infiniment petit. En d'autres mots, l'univers va exploser et la chaleur produite par cette désintégration consumera tout ce qui existe. Aujourd'hui, les moqueurs peuvent encore donner libre cours à leur raillerie, mais rira bien qui rira le dernier. Un jour, le jugement de Dieu tombera et Jésus-Christ reviendra en gloire. Le Seigneur l'a promis et sa puissance l'accomplira.